7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, où en est la jeunesse tunisienne? Dimanche se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle anticipée à cause du décès du président belge Haïd Essebsi. Pour la seconde fois depuis le printemps arabe, les Tunisiens pourront élire leur chef de l'État au suffrage universel direct. Le point positif, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation des institutions pour inciter les jeunes à voter pour ce premier tour. Sur le million de citoyens nouvellement inscrits sur les listes, on trouve 60% de jeunes de moins de 25 ans qui se sont inscrits pour voter. Est-ce que vraiment ils iront voter dimanche? Ça, on n'en sait rien encore. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que ce sont les jeunes qui ont déclenché la révolution en 2011 et ce ne sont pas eux qui ont tiré les bénéfices du printemps arabe. Ils sont toujours massivement au chômage, au moins 35% des 15-24 ans sans emploi selon la Banque mondiale. Pourtant, il existe de très bonnes universités en Tunisie, mais aussi des déserts territoriaux qui amplifient peut-être le sentiment d'injustice chez les jeunes, le sentiment aussi que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde quand on cherche du travail, par exemple. On va en parler avec nos invités qui mène des initiatives sur le terrain. Avec nous dans le studio, Guilhem Arnal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Soyons Actifs, Actives à l'ONG Solidarité Laïque, qui est un programme conjoint entre la France et la Tunisie. Hélène Aldeguer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes auteur de bande dessinée et vous avez publié une bande dessinée vraiment spécifique sur la jeunesse tunisienne, Après le printemps, une jeunesse tunisienne. Vous nous direz un peu comment vous percevez cette jeunesse tunisienne. Vous êtes encore en contact d'ailleurs avec cette génération qui est la même que la vôtre. On sera également en ligne avec Ahmed Galaï. Bonjour.
Bonjour.
Ahmed Galaï, vous avez été vice-président de la Ligue des droits de l'homme tunisienne, celle qui précisément a reçu le prix Nobel de la paix en 2015, et vous êtes aujourd'hui membre de la commission scientifique de l'Institut arabe des droits de l'homme. Vous êtes particulièrement investi aussi sur les questions de jeunesse. Vous-même, vous avez été un très très jeune militant politique il y a quelques années. Également avec nous, Yaya Boulel, bonjour.
Bonjour.
23 ans, fondateur de l'école de codage informatique Go My Code, une école qui est présente maintenant dans 3 villes tunisiennes. On peut dire que vous bousculez un peu le système d'éducation avec ces 3 écoles. Vous nous en parlerez, vous nous direz aussi si ce type de vision de l'éducation peut changer durablement le système d'éducation en Tunisie. Oui. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous vous sentez concernés par le sujet sur la jeunesse tunisienne, bien sûr, vous avez la parole. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Peut-être que vous êtes étudiant à l'heure actuelle en Tunisie ou que vous avez étudié. En tout cas, bien sûr, vous avez la parole. C'est aussi le numéro pour WhatsApp. Vous pouvez nous appeler gratuitement ou nous envoyer des messages.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Guilhem Arnal, Hélène Aldeguer, Ahmed Galaï et Yaya Boulel, je vais vous poser la question à tous les quatre. Est-ce que 8 ans après la Révolution, c'est bon signe que les jeunes s'inscrivent assez massivement sur les listes pour voter, Ahmed Galaï?
Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. J'aimerais avant tout préciser une appellation que vous avez utilisée pour la Révolution tunisienne. Vous aviez dit la Révolution du le printemps arabe. Mmh. Bon, ça c'est un label qu'on a donné dans le monde juste après la révolution tunisienne de 2011. Nous, on aimerait bien dire la révolution de la liberté et la dignité. Pour éviter ces appellations un peu tour opérateur, celle aussi du jasmin, parce que le terme exact de cette révolution, justement, c'est au clou de votre programme, au sein de votre programme, la jeunesse et aspiration, attente des jeunes, justement. C'était une révolution de liberté, de dignité, parce que le peuple a recouvré, grâce à ces jeunes justement, et aux moins jeunes, il a recouvré pour un moment liberté et dignité. Un des paradoxes de la révolution tunisienne, c'était justement que ces jeunes-là qui sont beaucoup investis, notamment les gens du net, les jeunes du réseau social, oui. Comme votre invité, notre ami tunisien qui a créé une école numérique, mais ces gens-là ont été un peu utilisés comme un spectacle. On a nommé quelques jeunes au gouvernement provisoire au début, Ali Amem et autres, mais qui ont vite déchanté, puis ont quitté, comme beaucoup d'autres jeunes qui ont quitté la scène politique, mais qui sont restés dans la scène politique en dehors des sphères officielles, en dehors de l'establishment politique qui est accaparé par les moins jeunes et aussi par ceux qui n'ont pas vraiment respecté les attentes des jeunes de la Révolution. On continuera après.
Est-ce que vous avez l'impression, alors Yaya Boulel, vous qui avez 23 ans, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes, ils ont un peu dépassé le stade de la déception qui est évidemment très présent dans les mentalités à l'heure actuelle depuis la Révolution de Jasmin ?
Ouais. Bonjour, merci à tout le monde. En fait, moi, je me sens que il y a plus de les gens, ils sont plus conscients en fait. Et j'ai pas de télé à la maison, mais je vois sur Facebook et sur YouTube et sur Instagram que c'est un challenge pour tout le monde en fait, parce que on sait, nous les jeunes, on sait que voter pour un président, c'est un moyen pour changer des choses. Contrairement à la phase avant la révolution, on n'était pas conscient de l'importance de vote en fait.
Vous étiez adolescent hein, dans votre cas, Yaya Boulel, au moment de la révolution.
Avant de la révolution.
Oui. Comment je dis vous étiez adolescent au moment de la révolution de Jasmin.
Oui, oui, oui.
C'est 8 ans.
J'avais 14 ans, 13 ans.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Guilhem Arnal, sur 26 candidats, bon, on a seulement deux femmes, hein, ça on pourra peut-être en reparler, il y a plus de candidats que de partis politiques, il y a beaucoup de candidats hors système. Est-ce qu'on parle finalement suffisamment des vrais problèmes des jeunes dans cette campagne ?
J'ai pas beaucoup entendu. J'ai entendu que beaucoup de choses autour des domaines régaliens d'un président en passe d'être élu, mais peu des questions sociales de façon générale, peu des questions d'emploi. On a beaucoup parlé de sécurité, on a beaucoup parlé de
la question des institutions aussi.
Des institutions, mais peu de questions de jeunesse. Et effectivement, dans le paysage politique qui est offert aux Tunisiens dimanche, c'est un peu léger là-dessus encore, donc on va voir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que les jeunes se sont inscrits et que le jeu n'est pas fait. Puisque il y a vraiment, contrairement à 2014, tout est possible, là, je pense, dimanche. Donc ça va être assez serré et donc les jeunes vont avoir un rôle important à jouer, s'ils le souhaitent, dans l'élection.
Ouais, avec en même temps, Hélène Aldeguer, une très forte pression sur ce pays, même à l'extérieur. Tout le monde regarde, hein, retient quand même un peu son souffle sur ce pays qui est le seul des printemps arabes à avoir quand même relativement bien réussi ce printemps arabe. Si on regarde les autres pays, cette pression-là, elle est palpable aussi chez les jeunes.
Ça devient un automne arabe maintenant. Hein. Ça devient un automne arabe.
Oui, un automne arabe. Hélène Aldeguer.
Oui, je pense qu'il faut aussi se questionner sur le fait qu'il y a quand même la figure un peu du père de la nation qui est parti, du fait du décès de Béjir Tsepsi, et que finalement, avec le poids du suffrage universel, il y a quand même une sorte d'importance qui est donnée dans cette bataille politique présidentielle, alors que finalement, c'est un régime parlementaire, la Tunisie. Et que le poste le plus convoité, ça devrait être celui de Premier ministre. Et que, en fait, les présidentielles sont passées avant, du fait d'un agenda accéléré, avant les élections législatives. Et finalement, je pense que c'est pour ça aussi, alors que la jeunesse, à mon avis, la question sociale, en effet, est reléguée par rapport à la question politique. Mais il y a cette importance d'une figure un peu qui va mener le pays. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un intérêt assez fort pour ces élections-là.
Yaya Boulel, vous avez 23 ans, il faut qu'on parle un peu de votre parcours parce que ça éclaire aussi sur pas mal d'enjeux de la jeunesse tunisienne aujourd'hui. Vous avez donc fondé cette école Go My Code en Tunisie. Hein. Vous êtes un Tunisien, grandi en Tunisie, vous avez grandi à Sousse. Hein. Vous avez fondé cette école, maintenant il y en a trois à Tunis, à Sousse et à Sfax. Comment vous avez fait? Parce que cette jeunesse tunisienne qui dit quand même beaucoup que les dés sont pipés dès le démarrage, du fait de la corruption, que rien n'est possible, que le système est figé. Vous, comment vous avez fait?
En fait, moi j'ai commencé à coder à l'âge de 14 ans et j'ai appris le code sur Internet. Et après, à l'âge de 15 ans, j'ai fait quelques stages à la Silicon Valley en tant que développeur. Après, j'ai pris mon bac en 2016 et j'ai commencé Go My Code parce qu'ils avaient toujours l'idée de créer l'école à la Silicon Valley, tu vois, où les jeunes peut apprendre à coder, à développer des produits technologiques, notamment des vidéos, des sites web.
Je précise bien, vous vous êtes retrouvé à la Silicon Valley, pas parce que vous aviez un piston, parce que vous aviez fait quelque chose que personne n'avait fait avant vous.
Oui, parce que j'ai développé pas mal d'algorithmes, développé pas mal de sites web. J'étais recruté par une boîte de développement de jeux vidéo. Voilà, qui est basée à la Silicon Valley. Voilà. Et après, après 2016, j'ai commencé GoMyPod. J'ai passé presque 3 ans pour créer la boîte, pour recruter les premiers développeurs et pour développer le concept.
C'est-à-dire que là vraiment, vous êtes passé de super geek à entrepreneur. Ça se complique.
Oui, exactement. Moi, j'ai en fait, c'est le développeur. Tu vois, j'ai appris à coder à l'âge de 13 ans, à 14 ans. J'ai développé pas mal de sites web. Mais pour créer une entreprise et pour créer l'entreprise avec les procédures, avec et une entreprise durable, sustainable, c'est un vrai challenge. Surtout, il n'y a pas un vrai accès à l'investissement. Il y a un vrai challenge pour recruter et pour capter les meilleurs profils. Il y a un vrai challenge économique pour que les gens aient investi des montants pour le programme que tu offres.
Ouais. Alors, ces écoles, elles forment au métier du digital et du web. Comment vous, en tant que jeune, quand vous avez créé cette école il y a maintenant 3 ans, hein, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que vous aviez 20 ans, comment vous étiez reçu dans les institutions tunisiennes quand vous arriviez et vous disiez je vais créer une école?
Moi, je crois que nous, les jeunes, si on veut changer les choses, il faut créer de la valeur avec les moins de ressources. Ça veut dire qu'il faut qu'on dépend du gouvernement ou des procédures administratives. Ou nous, pour un jeune, il peut créer de la valeur, il peut innover avec moins de ressources sans créer une indépendance, en fait.
Non, mais sous-entendu en contournant le système.
Exactement.
Ouais.
J'aimerais bien sauter sur le.
Bien sûr, Ahmed Galaï, oui, parce que effectivement.
Depuis que mon ami. Comment il s'appelle, mon ami tunisien?
Yahya Boulel. Yahya Boulel.
Yahya, Sabah Hamdour. Je te salue très très fortement. Oui. Lorsque tu parlais, je ne peux que saluer ton parcours pour au moins 2 raisons. Hein. Premièrement, parce que vous êtes au digital et vous avez créé cette entreprise et ce parcours digital. En dehors du système formel, c'est-à-dire qui presque, ne t'a pas permis de faire éclater tes capacités, et pour aussi montrer au monde que la jeunesse tunisienne est une jeunesse prometteuse. Elle est pleine d'activité, pleine de créativité. Alors la deuxième chose pour laquelle je veux et j'insiste à le dire, c'est que tu es resté dans le pays. Beaucoup de gens partent maintenant. Et surtout s'ils ont des créneaux, des moyens comme la tienne, ils partent. Encouragé par ce qu'on appelle maintenant l'immigration choisie, on choisit nos médecins, nos ingénieurs, nos jeunes créateurs.
Parce que Yahya Boulel, vous auriez pu rester dans la Silicon Valley, je suis sûr que vous aviez des opportunités, vous aviez été largement repéré, non?
Certainement, il aurait pu. Oh.
Mais c'est vrai, en fait, il y a un vrai challenge de retention pour les entreprises, pour capter les bons profils, parce que la majorité de profils départent, c'est un vrai challenge pour les entreprises. Parce que pour une start-up, pour qu'elle innove et pour qu'elle crée de la valeur et de la technologie, il faut trouver de très très bons profils, en fait. Il n'est pas évident.
Alors, vous-même, vous n'avez pas étudié à l'université. Je crois que c'est un détail important à donner à Ahmed Galaï qui vous écoute avec attention. Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller à l'université?
À l'université.
Après le bac.
Pour moi, en fait, j'avais une vision très différente d'un système d'éducation. Même pour GoMyCode, c'est vraiment, j'ai développé le système que j'ai rêvé lorsque j'avais 15 ans ou 16 ans. Donc GoMyCode, c'était vraiment le système d'éducation que je voulais créer, en fait.
Vous n'attendiez rien de l'université en Tunisie pour monter une boîte d'informatique, enfin une boîte de formation à l'informatique?
Si, il y a de très bonnes universités à Tunis, mais c'est juste que j'avais une vision très différente, en fait. Parce que je vois, en fait, la valeur et je vois le potentiel du projet et je valorise mon temps, j'investis mon temps sur le projet que d'aller à l'université. Et je pense qu'il y a plus de retours que aller à l'université.
Ouais. Aujourd'hui.
Chapeau Bollard, parce qu'il a construit le système, ouais. Il a contourné tout le système, il a trouvé son système à lui, parce que le système tunisien ne frotte pas.
Alors attendez, on a quand même quelques questions encore à lui poser, hein, ouais. À Yaya Boulel, ouais. Sur cette école, hein, parce que elle est payante cette école, elle est ouverte à qui?
Oui, en fait, aujourd'hui, on propose des programmes pour tout le monde. On a des programmes pour des lycéens, on a des programmes pour des étudiants, pour des diplômés, pour des professionnels. Mmh. Les gens, aujourd'hui, ils payent des montants, des frais d'inscription.
Mmh. Et on est très accessible. Combien par an?
Ils payent à peu près dans les 200 dinars, dans les 75 euros par mois. Et voilà.
D'accord. Et vous rentrez dans vos... Enfin, le modèle économique, il fonctionne? Vous n'êtes pas déficitaire?
Non, aujourd'hui on est sustainable, on est sustainable en fait. Et le modèle il tourne en fait.
Il y a des filles dans cette école
et
aussi.
On vient juste de lever la première levée de fonds pour styler plus le modèle et pour ouvrir plus d'écoles. Nous, l'ambition c'est pan-africain. Donc on veut ouvrir dans d'autres pays en Afrique parce qu'on croit en fait, dans ce modèle qu'on est en train de développer et dans l'impact de l'éducation digitale.
À la sortie, les jeunes, ils trouvent du travail?
Évidemment, en fait. On a placé plus de 450 aujourd'hui développeurs dans plus de 45 boîtes technologiques. On travaille avec des grandes boîtes, notamment Talent, Vermec, voilà.
Yaya Boulel, vous restez avec nous. Vous avez été classé parmi les 100 startups d'avenir au Maghreb. Vous allez nous dire aussi tout à l'heure comment ce type d'école peut faire bouger le système d'éducation. Et bien évidemment, on a envie d'avoir vos points de vue à vous autres, nos invités dans le studio, et puis également Ahmed Galaï qui est au téléphone sur ce fameux système. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en Tunisie aujourd'hui pour que les jeunes aient accès à l'emploi, mais bien au-delà de l'emploi aussi, qu'ils puissent construire leur avenir, construire leur vie familiale, parce que quand on n'a pas de travail, c'est tout le reste aussi qui est bloqué. On se retrouve dans quelques instants, ça sera juste après Youma. Pour cette super programmation musicale tunisienne, Youma Smek, aujourd'hui, on est en direct chez 7 milliards de voisins et on s'interroge sur cette jeunesse tunisienne. Dimanche, les Tunisiens iront voter pour le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie, une élection anticipée, vous le savez, du fait de la mort du chef de l'État en juillet dernier. Les jeunes se sont inscrits relativement massivement sur les listes électorales, en tout cas sur le million de nouveaux inscrits, parce que les institutions tunisiennes ont fait leur travail en incitant les Tunisiens à aller s'inscrire. On avait 60% de jeunes de moins de 25 ans qui se sont inscrits sur les listes. Viendront-ils, se rendront-ils dans les urnes dimanche? Et puis pour voter pour qui aussi? On l'a dit dans cette émission depuis le début, finalement les vrais problèmes des jeunes, ils ne sont pas tellement évoqués, mais il faut dire aussi que depuis combien de dizaines d'années on parle du chômage des jeunes maintenant sans trouver de solution? On se demande si le sujet n'est pas usé, bien qu'il soit bien présent dans la vie quotidienne des jeunes. On en discute avec vous, Ahmed Galaï. Vous avez été vice-président de la Ligue des droits de l'homme tunisienne. On est également au téléphone avec Yahya Boulel, 23 ans, fondateur de cette école de codage informatique présente dans trois villes tunisiennes, Go My Code, et grâce à laquelle les jeunes trouvent directement de l'emploi à la sortie. Il faut dire que les développeurs, on se les arrache partout sur la planète. Hélène Daldeguer, vous êtes auteur de bande dessinée. Vous avez publié Après le printemps, Une jeunesse tunisienne. Et Guilhem Arnal, vous êtes responsable du programme Soyons actifs, actives à l'ONU. Solidarité laïque. Alors justement, Guilhem Arnal, le chômage des jeunes, c'est un peu une ritournelle en Tunisie. 35% de chômage chez les jeunes, chez les hommes déjà, au moins 35% pour les jeunes. 69%, je m'en étrangle hein, tellement c'est vrai que les chiffres sont énormes. 69% des titulaires d'un doctorat sont au chômage. Qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui, 8 ans après la Révolution?
Alors, la Tunisie a la particularité, un triste record hein, dans la région et dans le monde. Hein, c'est le taux de chômage les plus importants au monde pour la jeunesse. Plus important qu'au Maroc, plus important qu'en Algérie. Qu'est-ce qui coince? Je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'école tunisienne doit évoluer avec le pays et se démocratiser. À la fois... Bon, pour répondre aux besoins du marché du travail, mais pas simplement. Pour être aussi dans l'air du temps, on ne fait pas une école sous un régime dur comme on fait une école dans un régime démocratique, d'émancipation, etc.
Et cette école s'est pas transformée là, au fil des années?
Pas encore.
Mais pourtant, auparavant, Ahmed Galaï, la Tunisie était le fer de lance de l'enseignement technique, par exemple, bien devant le Maroc ou l'Algérie. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est encore un fer de lance à Tunisie parce que le système éducatif tunisien, il doit aux bâtisseurs de la République, notamment Bourguiba, malgré ses défaillances démocratiques à l'époque, d'avoir construit une école républicaine qui a permis aux jeunes et aux femmes d'aller à l'école. Mais justement, après ça a commencé à coincer avec la massification de l'enseignement, donc il n'y a pas eu aussi de réponse adéquate sur le plan d'adéquation emploi-formation. Et c'est sur le modèle économique qu'on continue à appliquer, justement. Le problème, c'est quand il y a un modèle néolibéral qui est au talon du système occidental, sans donner un peu la chance aux Tunisiens eux-mêmes de réfléchir sur quel modèle ils veulent, sur quel modèle d'enseignement, quel rapport entre l'enseignement et le travail, les régions sont délaissées. Il y a un tissu économique qui est très très pauvre, et ça c'est un choix stratégique de la politique des anciens dictateurs. C'est qu'ils ont banni, ils ont oublié, ils ont laissé pour compte des régions immenses, pleines de richesses, comme le Sud, comme l'intérieur du pays, comme Gafsa, comme Mdnin, le Kef, etc. Et donc la jeunesse, justement, vous parliez tout à l'heure des jeunes diplômés, c'est un problème endémique. Les jeunes, maintenant, sont obligés de se mettre en association pour défendre leurs intérêts vitaux.
Justement, vous parliez des inégalités territoriales avec le Sud largement délaissé. Ça veut dire qu'il manque quoi dans le Sud à l'heure actuelle si on parle d'inégalités aussi en termes d'installation de campus universitaires, de formation technique?
Je vous donne c'est criard. Regardez, dans l'espace de 20 km entre Sousse et Monastir, il y a 20 km.
Donc là, on est dans le Nord, hein, oui.
Alors, c'est le Sahel tunisien. C'est le pays le territoire de Bourguiba et de Banadi.
Oui.
Il y a quatre universités de médecine dans le territoire de 20 km, alors qu'il n'y en a aucune dans tout le territoire à part Tunis.
Oui.
Donc, les jeunes de Gafsa doivent aller à Sfax pour aller étudier la médecine, bien les élémentaires. Oui. Donc, ce sont des choix de développement régional. La révolution a été aussi l'un des détonateurs de la révolution, c'est réduire ces inégalités entre les régions, entre les jeunes, entre les femmes et les hommes. Le chômage touche plus les femmes que les hommes. La Banque mondiale, vous parlez tout à l'heure de la Banque mondiale, elle a un concept, le NEET, c'est ceux qui sont inscrits ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni dans... C'est des chiffres alarmants. Bien sûr, il y a des solutions si on s'attarde, si on attarde tout le monde à, premièrement, à ce que ces politiques laissent leur intérêt politicien. Vous m'entendez ?
Oui, bien sûr, on vous écoute attentivement, Guillaume.
Justement, les programmes, vous parlez au début de la séance, le programme de ces 26 qui restent parmi 100, qui sont cette logorée, cette politogorée.
Les 26 candidats au premier tour de l'élection présidentielle, oui.
On a 26 candidats, bien sûr, ils parlent de chômage un peu à la fin de la page, avec un point, sans deuxième ligne. Ils parlent de la corruption, ils parlent du développement, ils parlent... d'autres choses, mais
quel est le candidat qui pourrait avoir la faveur des jeunes, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler des jeunes en général?
Alors, les candidats qui rapportent leurs aspirations. Les candidats, moi, excusez-moi de dire, ma propre position, celle-là, et j'aimerais pas, je ne veux pas attribuer les gens, mais il y a beaucoup de candidats de droite et qui n'avaient aucune présence avant la Révolution, qui viennent par la patte de la chaise de Carthage, comme on dit, et parmi eux, il y a des gens qui sont corrompus parmi ces gens-là, ces candidats, il y a des gens qui sont maintenant en dehors, qui sont poursuivis par la justice, et ils sont paradoxalement des candidats à la présidentielle.
Vous faites allusion à Nabil Karoui, qui est incarcéré depuis août dernier pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, mais qui n'est pas interdit de campagne, et qui est toujours, me semble-t-il, en tête des intentions de vote.
Oui. Alors, bon, je ne veux pas donner un avis sur ces gens-là, parce que c'est la campagne électorale, puis chacun a le droit de le faire librement et démocratiquement. Mais en général, il y a beaucoup de candidats qui ne reflètent aucunement les aspirations de cette frange, la jeunesse. La jeunesse tunisienne, elle est, comme tous les pays du Maghreb, les pays du Sahel africain, les pays d'Afrique, c'est la majorité de la population. Donc, il faut que tout le programme soit focalisé surtout sur cette population, sur la culture, l'emploi, l'éducation, quel type de formation. Et ils sont en train de quitter. Yahya me plaît beaucoup, bien que moi je suis pour une école démocratique, une école républicaine et publique, laïque, bien que lui, il est lancé une école privée, mais c'est son droit, bien sûr, d'autant qu'elle participe au développement. Alors, ces gens-là qui sont écartés du système éducatif, c'est aussi un problème, c'est des gens qui sont maintenant en train de penser à la
On va rappeler juste quelques chiffres sur les gens qui sont écartés du système éducatif. Comme vous dites, on a 31% des hommes qui quittent le système scolaire après avoir échoué un examen, donc déjà ça renforce pas la confiance en soi. On a 24% qui quittent le système scolaire par lassitude des études, et 22% aussi pour des raisons financières. C'est quand même un immense gâchis.
Mais oui, j'ajoute un autre chiffre alarmant, c'est 100 000, plus que 100 000 personnes de l'école de base qui quittent le parcours avant d'avoir atteint 15 ou bien 16 ans. Le système éducatif tunisien est placé parmi les plus arriérés dans les évaluations de PISA. Nos jeunes, il y a des réussites, bien sûr.
Vous restez tous en ligne avec nous, surtout, et nos invités sont toujours en studio. On a un auditeur qui est à Libreville, au Gabon, et qui nous appelle via notre standard WhatsApp 33 1 84 22 71 71, et qui voudrait vous poser une question, parce que vous savez que les jeunes sur le continent subsaharien, donc un peu plus au sud que chez vous, s'intéressent aussi à cette élection et aux problématiques des jeunes tunisiens, qui ne sont pas très éloignés des problématiques de la jeunesse subsaharienne. Quentin est en ligne avec nous de Libreville. Bonjour Quentin.
Bonjour madame.
Quentin, vous avez une question à poser à Yaya Boulel, qui est un jeune entrepreneur du numérique et qui a fondé cette école de codage numérique.
Oui, effectivement.
On vous écoute Quentin.
Ma question est la suivante à monsieur Yaya. Ouais. Pourquoi le gouvernement tunisien pourquoi la Tunisie a vraiment un taux de chômage le plus élevé et pourtant ils ont des étudiants mieux formés?
Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous laisse penser ça, Quentin? Vous avez une connaissance des jeunes tunisiens?
Oui, parce que j'ai un frère qui sort de la Tunisie dans des universités tunisiennes.
Ah, d'accord, ok. Donc un frère gabonais qui est parti étudier en Tunisie. Oui. Eh ben, vous posez une bonne question, Quentin. En effet, parce que c'est vrai que pour les jeunes subsahariens, la Tunisie, mais aussi le Maroc et dans une moindre mesure l'Algérie, ça fait partie des destinations où on sait qu'on peut sortir avec un bon diplôme. Vous êtes d'accord avec ça, Yaya Boulel, vous qui n'êtes pas allé à l'université en Tunisie et nulle part ailleurs d'ailleurs?
Oui, en fait, merci pour la question. Je suis d'accord, mais à Tunis, en Tunisie aujourd'hui, un vrai challenge. On a plus de 300 000 diplômés. Ils ont des diplômes d'ingénieur, des licences, master, ils sont au chômage. Et c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, les boîtes ne trouvent pas de profil de développeurs. Aujourd'hui, il y a un gap de 5 000 développeurs à Tunis. Notamment, en fait, il y a une révolution technologique. Et lorsque tu vois la révolution technologique, et en parallèle avec l'évolution de du système éducation, il y a un vrai gap, en fait.
Ouais, c'est vrai, vous voulez dire que l'université ne s'est pas adaptée à ces changements, à ces révolutions technologiques?
Exactement. Les systèmes d'éducation, ils sont très lents, en fait. Ils ne s'adaptent pas avec l'évolution technologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de recruter des développeurs sur des technologies spécifiques et on ne trouve pas.
Vous les voyez arriver dans votre école, Yaya, par exemple, des ingénieurs qui ont peut-être été bien formés sur d'autres notions, d'autres matières d'ingénierie, mais sur l'informatique, il y a un vrai problème?
Nous, on forme sur des technologies que maintenant, il y a des boîtes de startups à la Silicon Valley qui utilisent ces technologies. Mmh. Donc, on veut être au même niveau à l'université ou au système à l'économie ou à l'écosystème des boîtes de la Silicon Valley. Mmh. Du coup, ça recrute, en fait.
Merci en tout cas.
Sur des nouvelles technologies, ouais. On ne prend pas des technologies old.
Merci pour la réponse, Yaya Boulel, vous restez en ligne avec nous. Merci à Quentin pour sa question. Guilhem Arnal, je voudrais que vous nous parliez de ce programme de solidarité laïque entre la France et la Tunisie, Soyons actifs, qui concerne la réduction des inégalités en Tunisie. On va peut-être redire, alors Ahmed Galaï a parlé de ces inégalités régionales, hein, entre le sud et le nord, notamment sur ces zones désertiques en termes de structure d'éducation. Comment vous travaillez pour réduire ces inégalités concrètement, Guilhem Arnal?
Alors, on travaille sur trois aspects des inégalités. Elles sont bien, bien plus nombreuses, mais nous, on en a choisi trois. L'éducation. Quand on regarde, par exemple, les résultats du baccalauréat, ils sont très disparates entre les régions. C'est-à-dire que les régions côtières et puis les régions de l'intérieur n'ont pas du tout les mêmes résultats. Donc, nous, on s'est intéressé à travailler justement sur les régions qui subissent les échecs scolaires, les départs, etc. Donc, on travaille sur l'éducation pour permettre justement d'attirer davantage les élèves dans l'école, réduire les violences et réduire aussi tout ce qui est phénomène d'addiction dans l'école, parce qu'ils sont, malheureusement très nombreux en Tunisie.
Un volet économique. Qu'est-ce que vous entendez par les phénomènes d'addiction, très clairement?
Le tabagisme, qui est très important. Enfin, toutes les personnes qui vont en Tunisie, vous le verrez, les jeunes fument très tôt. Et puis après, il y a des drogues dures qui circulent de plus en plus en Tunisie. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Et donc là, l'idée, c'est de proposer justement une alternative à soit finalement rentrer dans la fonction publique, puisque les postes sont saturés et puis tout n'est pas transparent dans les concours. Le système privé classique, nous, on essaye de soutenir l'émergence de l'économie sociale et solidaire, qui est une troisième voie possible et qui permet à la fois de travailler sur la valorisation des ressources locales.
Donc, ça peut être quoi, par exemple?
Ça peut être le patrimoine. Donc, c'est un grand pays de tourisme, la Tunisie, mais ça permettrait justement à des étrangers d'aller rentrer dans les territoires tunisiens, de voir toute l'histoire. Donc, des circuits touristiques, on travaille sur des produits cosmétiques dans un certain nombre de territoires, l'artisanat. On pense souvent, on a un magnifique exemple dans la région de Bizerte, à Sejnen, avec des femmes qui travaillent la poterie et leur art a été reconnu par l'UNESCO récemment. Et puis, le troisième aspect, quand on parle d'inégalité, c'est la question justement de la participation démocratique. Et donc là, on travaille sur la gouvernance locale pour permettre justement à des personnes qui sont très éloignées des affaires politiques de s'y intéresser et de voir qu'elles peuvent avoir une prise dans le cadre de la décentralisation en Tunisie.
Ouais. Hélène Aldeguer, vous qui publiez cette bande dessinée Après le printemps, une jeunesse tunisienne, vous, à la lumière de tous les sujets qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'état d'esprit des jeunes que vous avez rencontrés?
Je pense que du fait de mon expérience d'avoir été d'abord à Tunis et ensuite dans le Nord-Ouest, j'ai été vraiment frappée par les disparités régionales et on ne peut pas parler du chômage sans parler vraiment de discrimination que vivent certaines régions qui sont complètement marginalisées du fait déjà que finalement le littoral domine l'intérieur, que l'économie est quand même centrée, enfin orientée vers l'extérieur et qu'il y a assez peu d'infrastructures dans les zones, que ce soit le Centre-Ouest, le Nord-Ouest, qui sont finalement avec beaucoup de ressources, c'est-à-dire que le Nord-Ouest c'est vraiment l'agriculture. Culture. Il y a à GAFSA, il y a énormément de chômage et pourtant il y a le phosphate. Donc c'est vrai qu'il y a des inégalités qui sont extrêmement frappantes et on n'imagine pas à quel point il y a des inégalités au niveau de l'échec scolaire entre Tunis et entre Kasserine. C'est incomparable. Les jeunes sont aussi soumis à une pression policière, à finalement beaucoup de problèmes en effet de drogue parce qu'il y a vraiment rien à faire. Il y a un exemple qui a été étudié par des journalistes de Nawat de Jebel Jelloul, qui est un quartier de Tunis où il y a beaucoup d'usines et énormément de chômage et les jeunes ne peuvent que aller au café. Et ça m'a vraiment frappée de voir ces jeunes qui ont mon âge et qui n'ont d'autre espoir que d'aller prendre un café, de passer devant les usines et de se dire qu'il n'y a rien pour eux.
C'est ça, c'est une notion de l'attente finalement. Vous avez aussi raconté avec vos différents personnages dans la bande dessinée.
Bah, je pense qu'il y a quand même, oui, beaucoup... Il y avait beaucoup d'attentes et d'espoir parce que c'est en effet eux qui ont mené la révolution. Il ne faut pas oublier aussi que ça vient de l'intérieur finalement. La révolution, elle a tenu pendant un moment à l'intérieur avant de se propager dans les villes du littoral. Et est-ce que ça se serait propagé dans les villes du littoral si les gens de l'intérieur n'avaient pas tenu finalement cette flamme révolutionnaire? Et cette jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui elle a l'impression qu'elle est écoutée? Moi je pense en effet que la classe politique est déconnectée du milieu rural, qu'ils portent d'abord des débats idéologiques ou des positionnements partisans. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des personnalités un petit peu populistes qui se sont intégrées dans le débat politique et qui ont essayé, sans les nommer, d'aller chercher dans cette place vacante auprès d'une population qui a besoin de proximité et de reconnaissance.
Est-ce que le désir de quitter le pays est toujours aussi prégnant ?
Je pense que oui, la plupart, enfin beaucoup essaient de quitter le pays, mais c'est vraiment très intéressant de voir justement là à l'antenne quelqu'un qui a plein de projets, qui est resté en Tunisie pour aider aussi les gens de sa génération à rester, à entreprendre. C'est bien d'avoir des exemples comme ça, parce que si on grandit qu'avec des exemples de gens qui partent, finalement on va avoir ce même imaginaire-là.
Ouais. Guilhem Arnal, vous le disiez, il n'y a pas seulement la problématique du chômage pour que les jeunes n'aient pas envie de partir, il y a aussi le fait de sentir qu'on fait partie tous d'un même pays, c'est pas seulement le fait d'avoir un travail.
Oui, tout à fait. Alors, en Tunisie, il y a quand même quelque chose qui soude, c'est la notion de famille. Et je crois que sur tous les rendez-vous importants, la famille est présente et on le voit dans tous les sondages sociologiques où la famille est le premier cercle. Donc il y a un soutien qui se fait et donc le départ est toujours très compliqué du coup. Et tous les jeunes, c'est pas leur envie première de partir. Ils ont envie d'être acteurs d'une Tunisie démocratique, libre, et où les choix, où ils pourront faire leur propre choix. Donc c'est par dépit hein, que les jeunes sont amenés à partir.
Il y a aussi le programme Jeunes des Deux Rives, qui touche les 15-35 ans, donc là aussi une cible jeune. Vous parliez des inégalités territoriales, bien que les municipalités soient relativement actives, hein, et un rôle en tout cas important. Comment vous travaillez à créer des passerelles aussi avec les associations de terrain? Comment ça marche avec ce programme Jeunes des Deux Rives?
Alors, Jeunes des Deux Rives, c'est parti en fait d'un émoi issu des attentats qui ont malheureusement frappé la France et la Tunisie. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous réunit dans ce malheur? Et donc, on voulait travailler sur comment nos sociétés accueillent les jeunes et comment elles en font ou elles n'en font pas des citoyens. Et donc, c'est un programme pour permettre à des jeunes justement de se rencontrer dans la région et puis de partager des initiatives autour de la culture, autour du sport, plein de notions positives pour montrer que les problématiques sont certes communes entre nos deux rives et qu'ensemble, en tout cas, on peut créer des choses positives et pas des choses qui sont de l'ordre de la noirceur parce que effectivement, entre entre la France et la Tunisie, on avait une triste particularité, c'était que les jeunes partaient beaucoup en Syrie. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?
On parle de la jeunesse en Tunisie, puisque les jeunes, et pas seulement les jeunes, l'ensemble des citoyens tunisiens seront appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie dimanche prochain. Et on peut vous donner aussi la parole, les voisins, les voisines, où que vous soyez, si vous vous intéressez à cette jeunesse tunisienne et si vous souhaitez questionner nos invités. 33 1 84 22 71 71.
وحدي نفض مشكلتي وحدي تيح الصرف نشوف الدرابي نشوف عائلتي بحتي ما تبدلش معي أصحابي ولد ماكلتي بخلاف صحتي ما نعملش ستيل الرابي ستيلي عندي بدربي مش بيدك انتي جينا القسم عنا المخاخ في دينا القلم كبرنا في الفاق تبلينا بالفن نموتي في الناس ما نسربيش أزمام باخد تخمام ما وليت شبدان حب نعيش بيس ما نخافش من الدم ما نخافش من الموت واخرتي فيك فن غدوة شدة تفوت وجرحي يتلم يا نسبق الخير باللي باش يصير promise I'll never fall كسبتي قلب كبير عندي مخي طير شرا ملي عمري فوق شد عمرها قصير نهارت اللي نحير نعرف فما ربي الفوق تخمه مساتير عندي ايجو خطير نحب نصلح حدي فوق كمل في المشي نزرب خدوتي في مخي فيجن على غدوتي ما ديفينيشن عندي قدوتي ما كومبيتيشن عندي خدمتي في طريقي واجه عندي حلمتي في راس الناس عندي كلمتي لما بالفتش عندي كلمتي كي جي العطش نخدم كبدتي خلوني وحدي في وقت الشده سولي الشدة مرها مدوم نعرف لي نشوف وقت المادة نعرف لي كل شي رو عنده سوم تاو نتصرف تاو نتصرف تاو نستنبت حلي وحدي تاو نتصرف غدوة ربي فرش تاو تتحرك وتذكرني كان النهار لي تيح الصرف وحدي تاو نتصرف تاو نتصرف تاو نستنبت حلي وحدي تاو نتصرف غدوة ربي فرش تاو تتحرك وتذكرني كان النهار لي تيح الصرف.
Un bon programme musical aujourd'hui à l'âge et 7 milliards de voisins pour illustrer cette problématique sur la jeunesse tunisienne. On est en direct sur RFI. Vous pouvez nous questionner aussi sur cette jeunesse tunisienne au 33 1 84 22 71 71. Elie est à Lubumbashi dans le sud de la RDC et il se demande ce que pense la jeunesse tunisienne. Je vous lis son message par rapport à la tolérance religieuse qui, selon lui, n'existe pas en Tunisie. Mon frère catholique actuellement ne peut exprimer sa religion. Donc j'ai compris que son frère étudie à l'heure actuelle en Tunisie. Où est-ce qu'on en est ? Alors évidemment, la question qu'il faut que je pose, notamment à Ahmed Galaï, vous êtes en ligne avec nous toujours, ex-président de la Ligue des droits de l'homme. Les jeunes et le vote islamiste, on l'a vu avec 26 candidats, il y a plusieurs candidats qui sont issus du parti des Narda et qui sont des dissidents, puisqu'on l'a dit, il y a plus de candidats que de partis politiques dans cette élection. Où est-ce qu'on en est des jeunes et du vote islamiste ?
Pour la tolérance Pardon, c'est quoi la question ?
Par rapport à la question que posait cet auditeur sur la tolérance religieuse.
D'accord. Exactement. Alors là, il y a vraiment quelque chose à dire parce que nous avons inscrit dans la Constitution tunisienne de 14 un très très beau concept du droit de l'homme, c'est la liberté de conscience, qui est beaucoup plus fort que la liberté de croyance et de religion. Hein. Mmh. C'est croire ou ne pas croire. Ouais. Ça, c'est vraiment très révolutionnaire que les députés ont inscrit cela. Mais il y a un gouffre entre la pratique et la théorie, entre le texte et le réel social. Mmh. C'est vrai que la Tunisie est un pays ouvert par rapport à d'autres pays, mais il reste quand même les pesanteurs de l'islam, les pesanteurs culturels, historiques. C'est encore un pays où l'islam est très, très présent, et c'est tant mieux. S'il est présent en tant que culture, en tant que croyance personnelle, en tant que... Moi, je suis laïque d'obédience, et je suis pour une religion qui soit une sphère privée pour la personne, et non pas une religion qui soit dans le public, qui contraint d'autres personnes à suivre ses préceptes. Donc l'islam, ou bien n'importe quelle religion, doit être une croyance individuelle, une relation directe entre la personne et et son créateur, bien sa divinité qu'il choisit. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes de ce type-là, il y a beaucoup d'intolérance, on y fait beaucoup dans les ONG tunisiennes à propager la culture de paix, de tolérance, d'acceptation de l'autre, bien sûr dans un climat qui n'est pas des fois propice, qui n'est pas adéquat à ce discours de droit d'homme général. Mais même les partis islamistes, maintenant, il a compris la gageure, il arbore un profil soft, un profil tolérant.
C'est ça, et d'ailleurs, ce sont Ennahda et Mred, d'ailleurs, plutôt qu'on parle d'un parti conservateur que d'un parti islamiste. Oui. Ce qui n'est pas la même chose.
Je le qualifie comme conservateur, bien sûr, ils ont le droit d'exercer la politique, mais dans le cadre d'une république civile. Oui. Et non pas une république religieuse bien qui impose un précepte au fond de l'autre. Donc ça c'est important de le dire. C'est vrai que les Tunisiens, il vit un paradoxe énorme. Hein. Il est très ouvert aux cultures libérales, mais aussi il est très très empreint de sa culture musulmane. C'est tant mieux, mais il faut aussi faire un peu cet équilibre savant entre authenticité et ouverture, entre culture nationale et entre culture universelle. Et nous aussi, on fait beaucoup de formations sur la primauté de l'universel, sur le spécifique. C'est vrai qu'on a une culture spécifiquement musulmane, mais il faut être aussi universaliste dans sa pensée. Il y a des valeurs universelles qui unissent tout le monde, qui unissent toutes les religions. La liberté est une valeur qui unit toutes les religions et toutes les cultures du monde. Donc on voudrait que les jeunes soient imprégnés de cette culture universaliste qui est le seul rempart.
On est sur le bon chemin. On arrive au terme de cette émission, Ahmed Galaï. On est sur le bon chemin ou pas pour cette jeunesse?
Moi, je répète, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Mais moi, par mon parcours de militant de droits de l'homme, je suis toujours optimiste. Maintenant, je me place dans les deux, entre les deux.
Yaya Bourel, pour vous alors, est-ce que la jeunesse tunisienne est sur le bon chemin ou pas, malgré les vicissitudes de ces derniers temps?
Moi, concrètement, je suis très optimiste, en fait, parce que je vois que les jeunes veulent vraiment changer les choses. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui est en train de développer à Tunis, notamment avec les startups et avec la nouvelle économie. Et il y a une nouvelle énergie, concrètement. On a des jeunes qui sont en train... Il n'y a pas que... MyCode aujourd'hui sur l'écosystème. On a plus de 400 startups aujourd'hui. Et il y a pas mal d'incubateurs technologiques, comme Fabric Labs, Diet Labs, qui sont en train de pousser ces jeunes pour lancer des boîtes et pour créer plus de valeur. Je suis vraiment optimiste. C'est vrai qu'il y a un vrai challenge économique, c'est vrai qu'il y a un vrai challenge d'employabilité et un vrai challenge de formation, mais on veut vraiment changer les choses. Hein. Et je pense que les jeunes, ils ont la responsabilité de créer de valeur et de ne pas avoir cette idée qu'on attend toujours que le président ou ce que notre gouvernement est en train de faire. En fait,
pour que nous, vous ne voulez pas avoir trop d'attentes, mais vous rendrez aux urnes, vous irez voter, Yaya Bouleil, vous qui avez 23 ans, vous irez voter dimanche ou pas?
Oui, bien sûr.
Et ben merci d'avoir été en ligne avec nous. On va laisser la parole aussi à nos invités dans le studio. Guilhem Arnal, pour conclure cette émission, est-ce que vous êtes malgré tout optimiste avec les programmes de terrain qui sont menés auprès des jeunesses tunisiennes?
Oui, je suis très optimiste globalement pour la Tunisie quand on voit la façon dont se sont faits les débats, la façon dont ça a été suivi par les Tunisiens. Et puis pour les jeunes, comme il l'a dit sur toutes les nouvelles technologies, moi dans le domaine associatif, je vois énormément d'initiatives. Et ce sont des jeunes qui font de la politique, qui font pas de la politique politicienne, mais qui font de la politique concrète sur le terrain pour continuer cette révolution de la dignité.
Et pour vous, Hélène Aldeguer?
Oui, je pense que c'est bien que ce débat soit aussi vif, parce que finalement les gens s'engagent. En effet, le débat a été un peu une sorte de fierté aussi, de se dire on est le premier débat comme ça qui se mène de cette façon-là, et c'est toujours porteur d'avoir un débat intellectuel aussi riche.
Eh bien, merci à tous les quatre. Merci à vous, Hélène Aldeguer. Vous avez 26 ans, vous avez publié Après le printemps, une jeunesse tunisienne, aux éditions Futuropolis, une bande dessinée. Merci aussi à vous, Yaya Bouleil, 23 ans, jeune entrepreneur avec cette école de codage informatique. Merci aussi à vous, Ahmed Galaï, ex-président de vice-président de la Ligue des Tunisiennes des Droits de l'Homme. Et merci à vous, Guilhem Arnal, de Solidarité Laïque. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation comme chaque vendredi. En cette rentrée, on parlera de la lecture, comment les enfants apprennent à lire, qu'est-ce qu'une bonne méthode de lecture. Ça sera une trilogie, 3 émissions, lire, écrire, compter, 3 savoirs fondamentaux.